Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 8 février 2001 à Saint-Jeudard.
Quelques questions. À quel niveau se situe situe-t-on quand on dit que la forme actue la matière? Quel est le rapport entre la forme et l'acte? Très bien. La forme actue la matière, ça se découvre en philosophie de la nature. C'est-à-dire la philosophie du devenir. L'expérience que nous avons constamment, que le monde qui est autour de nous est un monde de devenir, qui change tout le temps. Les réalités physiques sont tout le temps en mouvement. Il n'y a pas de repos en physique, hein, en philosophie de la nature. Le repos est propre au vivant. Et la philosophie du devenir me fait découvrir tout de suite un sujet radical, fondamental, la matière. Ce qui est toujours ce qui est capable d'être déterminé. Et puis la forme, ce qui détermine. Bon, cette distinction matière et forme se trouve d'abord en philosophie de la nature. Elle se retrouve en philosophie du vivant, en voyant que la forme, alors, est l'âme. Et l'âme est une forme très particulière, puisqu'elle est capable de faire que le vivant se meut. Donc la forme est principe d'efficacité, principe efficient. On se meut. Le vivant se meut. Mon âme me permet d'être autonome. Je suis encore mu par un autre, mais mu d'une façon très différente. Je serai mu par une attraction. Ému aussi par une causalité efficiente. La causalité finale commence à apparaître très fort avec le vivant. Et puis vous avez, en troisième lieu, en métaphysique, la distinction forme et matière. La matière disparaît en métaphysique. Je n'ai pas de principe propre métaphysique de la matière, puisque la matière est en puissance. Je n'ai plus que la forme. Vous voyez, ce qui fait comprendre comment Platon prendra la forme en soi. Alors que pour Aristote, c'est la substance. Et la substance est forme. Elle est une première détermination. Une forme qui est suffisamment parfaite pour avoir son autonomie d'être. Tandis que la forme dans la matière n'a pas d'autonomie dans l'être, est uniquement principe du mouvement. La substance, elle est forme, mais forme au niveau de l'être. Et c'est pour ça qu'on dit substance. Un mot nouveau, parce qu'il y a une réalité nouvelle à découvrir. Et l'acte présuppose la forme. Il n'y a jamais d'acte sans la forme. Mais l'acte exprime autre chose en l'être, de l'être, que la forme. La forme, la substance, exprime la détermination et le point de vue de l'acte détermine le point de vue de la finalité. Elle est première, c'est l'être dans l'ordre de la finalité. La finalité présuppose la détermination formelle, mais elle n'est pas la détermination formelle, elle est autre chose. Vous voyez, je comprends que ce n'est pas commode, c'est les trois niveaux différents auxquels il faut tout le temps, au point de vue philosophique, il faut tout le temps voir cette diversité, cette différence entre le physique, le pur physique, le vivant et le spirituel, l'être. Oui. Mais la détermination est découverte premièrement en philosophie de la nature, elle est découverte en philosophie du vivant, elle est découverte au point de vue métaphysique. Être, vivere, intelligere. La distinction platonicienne, les trois niveaux. Mais intelligere par rapport à l'être. Seule l'intelligence découvre l'être. Vous ne pouvez pas découvrir l'être par le point de vue imagination. Impossible. Or, quand vous êtes en philosophie, la référence à ce qui est, au jugement d'existence, est tout le temps là. La métaphysique nous met toujours en relation avec l'être. Vous êtes au niveau métaphysique quand vous êtes au niveau de l'être. Vous êtes en philosophie de la nature quand vous êtes au niveau du devenir. Vous êtes en philosophie du vivant quand vous regardez le vivant. Ce qui se meut. Oui. Il faut vous habituer. On a eu, il n'y a pas très longtemps, à Paris, on a fait ça ensemble avec le père Marie-Dominique Gauthier. La différence entre le philosophe et le système. Hegel est un système. Hamelin est un système. Je crois que Descartes est encore un système. Quelle différence y a-t-il entre une philosophie systématique et une philosophie analogique ? Une philosophie systématique voit premièrement ce qui est commun. Une philosophie analogique voit ce qui est d'abord divers. Le système voit la différence dans le tout, dans ce qui est commun. Le philosophe découvre l'unité à partir de la diversité. Je crois que c'est important de voir ça. Ça fait deux attitudes totalement différentes. Or, philosophie Hegel, c'est vraiment le système. Hamelin le dit, qui, au fond, est très influencé par Hegel, c'est la relation, ce n'est plus la substance qui est première dans l'ordre de l'être. Là, vous voyez, je relis la question, à quel niveau se situe-t-on quand on dit que la forme actue la matière? Oui, quand vous dites que la forme actue la matière, vous dites actuer. Normalement, vous dites que la forme informe la matière. Est-ce que c'est vrai que la forme actue la matière? La forme a comme fonction d'informer. Que informer est une voie vers l'acte, oui, mais ce n'est pas l'acte. Quel est le rapport entre la forme et l'acte? Oui, c'est distinct. La forme, c'est la détermination. L'acte, c'est la finalité. Alors, voyez dans votre vie la différence entre la détermination et la finalité. Voyez le choix constant dans les déterminations vous choisissez telle chose, tel moyen, et vous choisissez ce moyen parce que c'est celui qui sera le plus efficace pour la finalité. Père, peut-on dire que ce qui détermine l'intelligence, c'est aussi l'acte d'être? Ce qui est, oui, très bien. Oui, ce qui détermine l'intelligence, ce qui détermine l'intelligence, c'est l'être. L'être en tant que substance, l'être en tant qu'acte. Bon, au sens très très précis, hein, ce qui détermine l'intelligence, c'est aussi l'acte. L'acte, au sens rigoureux, ne détermine pas, il finalise. Et non pas seulement la forme, la quidité, la réalité. Au sens précis, hein, de l'analyse, au sens précis de l'analyse, la forme détermine. Et c'est la forme qui détermine, la quidité. L'intelligence est déterminée par la forme. L'acte ne détermine pas, mais finalise. Alors, vous voyez, c'est là où je verrai tout de suite que l'appréhension et le jugement, l'appréhension appréhende l'acuité et le jugement touche ce qui termine. Ce qui actue, enfin, ce qui actue, ce qui finalise. C'est par rapport au jugement qu'on peut saisir l'être en acte. C'est toujours dans un jugement. Je ne peux pas l'appréhender. Et c'est ça la difficulté. Vous appréhendez, vous assimilez. Tout ce que vous appréhendez, vous l'assimilez. Voilà. On le porte en soi. Alors, évidemment, la substance est liée à l'être, et donc, elle ne peut pas être saisie indépendamment du jugement. Toute la métaphysique, du reste, et toute la philosophie. Mais nous appréhendons des quantités de choses indépendamment de la philosophie. C'est sûr. On ne vit pas au niveau philosophique. C'est la réflexion sur notre vie, sur ce que nous sommes. Le point de vue philosophique. Mais nous vivons dans votre journée, vous écoutez un cours, bon, vous l'écoutez d'abord très simplement, puis petit à petit, vous arrivez à l'écouter philosophiquement, métaphysiquement. Mais au début, la parole, il n'y a pas un langage métaphysique. Ça. C'est ça qui est terrible, hein. Il n'y a pas de langage métaphysique. Vous devez tout le temps préciser « je suis au niveau ». Il y a une pensée métaphysique, mais il n'y a pas de parole métaphysique. Il n'y a pas une parole de philosophie de la nature. Il n'y a pas une parole distincte de la philosophie du vivant. C'est la pensée. Arriver à distinguer la pensée de la parole, c'est déjà très intéressant. Est très utile. Parce que la philosophie est au niveau de la pensée. Elle n'est pas au niveau de la parole. Or, la plupart des gens saisissent le point de vue de la parole sans saisir la pensée derrière. Je transmets ma métaphysique par ma parole. Je transmets mon éthique par la parole. Et je dis, je parle au niveau métaphysique. C'est ma pensée qui se sert de la parole et qui, se servant de la parole, fait que ma parole est dans un contexte métaphysique. Et puis je retire ma parole de ce contexte et je n'y comprends plus rien. C'est là qu'on voit combien l'histoire est pauvre, puisqu'elle se fait par la parole et par les documents, par la parole et l'écriture. C'est pas la pensée. Aristote nous transmet sa pensée par un langage. Ce langage, si ma pensée rejoint la pensée d'Aristote, je comprends ce langage d'Aristote. Mais si ma pensée ne rejoint pas la pensée d'Aristote, je reçois ce langage selon ma pensée. Et l'historien reçoit la pensée, reçoit la parole par les documents. Et derrière ces documents, derrière cette parole, il y a une pensée qui est transmise. Je ne lis pas Aristote comme je lirais Platon. Non. Je sais bien que l'un a un langage très formel, c'est-à-dire très lié à sa pensée métaphysique ou sa pensée philosophique, l'éthique. Je ne peux pas lire de la même façon l'éthique à Nicomaque et la métaphysique d'Aristote. Si je ne comprends pas que la pensée transmise par cette parole est différente, je ferai toujours des contresens. Et ça c'est la difficulté humaine. C'est que la parole est faite pour m'aider à penser. Mais je ne fais pas une philosophie de la parole. La parole est signe de ma pensée, symbole de ma pensée. Je fais une philosophie de la pensée. Et même, je ne fais pas une philosophie de la pensée, je fais une philosophie de la réalité. La philosophie de la réalité pensée, c'est la phénoménologie. Et la philosophie de la réalité, elle dépasse la phénoménologie, elle atteint la réalité. Enfin, quelle est la place de la connaissance imaginative dans la métaphysique ? Très intéressant, ça. La pensée imaginative poétique. Ah, alors distinguons la pensée poétique, la pensée imaginative. Toute imagination n'est pas poétique. Vous avez des rêves, ils sont au niveau de votre imagination. Vous avez des cauchemars, ils sont au niveau de votre imagination. De temps en temps, dans vos rêves, il y a un aspect poétique. C'est rare. Ça existe. Il y avait quelque chose de poétique, quelque chose d'extraordinaire, et qui vous éclaire, qui vous illumine. Alors, la pensée poétique sert à l'orateur. Ça, c'est sûr. Un orateur ne peut être un véritable et bon orateur que s'il est un peu un poète. Le sens de l'image. L'appel à l'image, c'est la pensée poétique. Et l'orateur se sert de ça s'il veut faire un discours qui soit convaincant. L'imagination sert à convaincre grâce aux images. Et quand on fait un cours, on prend des exemples, forcément. Si on peut prendre des exemples frappants, qui ont une certaine originalité, il y a un danger. C'est qu'on ne retient que les images. Les images très frappantes, très belles. l'époque. Vous voulez comparer la puissance de quelqu'un à la puissance d'une machine ou la puissance d'un animal. Vous voyez, un éléphant pénétré dans un troupeau de moutons. Vous avez déjà vu ça? Et c'est assez affolant, hein? Les pauvres petits moutons devant un éléphant. Bien, humainement, il y a des gens qui sont des éléphants. Ils ont des trompes. Et puis les pauvres étudiants sont des petits agneaux. Jésus dit, vous êtes des agneaux que je vous envoie au milieu des loups. Et ils disent, et le langage évangélique est rempli de comparaisons, d'images. Ce sont des images. Je ne suis pas un agneau. Et pourtant, je désire être un agneau. Ceux qui m'attaquent ne sont pas des loups. Ils sont comme des loups, vous voyez, les images. Et c'est très frappant quand je dis ça. Alors, voyez, l'imagination est capitale pour un langage poétique, un langage par parabole, pour l'orateur. Capitale pour celui qui prêche, capital pour même celui qui enseigne. Mais celui qui enseigne ne s'arrête pas à l'image. Il essaie de conduire à la pensée. Si l'image est trop forte, trop originale, si on insiste énormément sur l'image, on restera tout le monde à l'image. Et quand on fait une conférence, à la différence d'un cours, dans une conférence, on met un rôle principal à l'exemple et à l'image. Aujourd'hui, c'est le témoignage. Le témoignage passe avant tout. On aime des témoignages. Mais les témoignages, c'est gonflé d'images. Il y a des témoins magnifiques qui racontent leur histoire d'une façon étonnante, leur conversion d'une façon étonnante, avec des exemples extraordinaires. Le témoignage est un tissu d'images. Il y a très peu de pensée dans un témoignage. Mais ça frappe. Et puis, un cours, l'image est dépassée, on vous conduit au principe. On conduit à la réalité. La réalité n'est pas une image. La réalité, elle existe, elle est. Alors, vous essayez, au point de vue philosophique, de dépasser les images pour découvrir l'analyse philosophique. En science, vous essayez de dépasser les images pour entendre, voir, connaître, l'analyse. Oui. Une analyse scientifique, une analyse philosophique est au-delà de l'image. Vous ne pouvez pas analyser une image. Vous la décrivez. On décrit une image. On décrit une scène imagée. Vos rêves, vous n'allez pas les analyser. Vous les décrivez. Et les analyser, vous direz toujours, ah, derrière, il y a de l'imagination. C'est pas la réalité. Donc le jugement d'existence n'est pas là. Vous ne pouvez pas l'analyser philosophiquement. Vous pouvez simplement décrire. Et vous pouvez décrire magnifiquement vos rêves. Et décrire magnifiquement les orages intérieurs, c'est-à-dire les cauchemars. J'ai eu très peur de cette bête qui s'avançait vers moi. Oui, image. Et vous pouvez remettre le climat de votre imagination, le climat de ce drame intérieur que vous avez porté dans ce rêve. Mais l'intelligence quitte l'image pour analyser et saisir le principe, ou saisir la loi. La loi n'est pas une image, le principe n'est pas une image. La loi est une relation entre antécédents et conséquents, et le principe est la saisie de ce qu'il y a de plus profond dans une réalité. Donc, quelle est la place de la connaissance imaginative dans la métaphysique ? La métaphysique est au-delà de la connaissance imaginative. La transmission de la métaphysique peut se servir de la connaissance imaginative, mais pas trop fort, parce qu'autrement, on resterait devant l'image. C'est très, très intéressant de voir ça dans un cours, je ne vous demande pas de le faire, mais dans un cours, de voir la part imaginative. Dans un cours de philosophie, dans un cours de théologie, quelle est la part de l'imagination ? Et est-ce que vraiment, vous aboutissez au principe ? Parce que si vous avez un cours qui atteint la sagesse philosophique ou la sagesse théologique, dépasser l'image pour saisir la réalité divine, pour saisir la réalité humaine, qui seule est principe et mesure. Peut-on affirmer qu'elle est, d'une certaine manière, le point de départ de la philosophie de Bergson et de Husserl ? Pour Husserl, il y a la mise entre parenthèses de l'être, époqué. Et c'est très difficile. Hein, je devais diriger à Fribourg une thèse d'un dominicain australien sur Husserl et sur l'époque d'Husserl. Ça m'a intéressé beaucoup. Il connaissait parfaitement Husserl, beaucoup mieux que moi, mais on pouvait, par la précision exacte de ce que représentait, il faut toujours se rappeler qu'Husserl est d'abord un matheux. Alors, en mathématiques, il y a la mise entre parenthèses de l'être. La connaissance mathématique. J'avais beaucoup réfléchi sur la connaissance mathématique avec le père Gard des Lauriers, qui était un excellent métaphysicien et qui faisait sa thèse, qui écrivait sa thèse, étant religieux. Et quand je lui ai demandé combien de personnes pourraient comprendre sa thèse, il réfléchissait. Il disait, je crois, 3 personnes. Il me citait. Les autres ne comprendront pas. De ces urbains, ils n'ont pas été aussi loin. Et ça, c'est très joli de voir le mathématicien très conscient du degré d'abstraction dans lequel il était et le possible. Le possible. Le matheux est toujours dans le possible. Il ne se pose pas le jugement d'existence. Or, Husserl est d'abord un mathématicien. Il a fait sa thèse en mathématiques. Et ensuite, il est passé en philosophie. Donc, on a une méta-mathématique. C'est très important de comprendre ça. On n'a pas métaphysique, mes méthodes mathématiques. Vous voyez, c'est toujours très intéressant de voir la relation que le philosophe met par rapport aux mathématiques. Parce que même si les mathématiques d'aujourd'hui sont très différentes des mathématiques d'Aristote, cependant, c'est toujours le même degré d'abstraction, mais poussé beaucoup plus loin. Alors, la mise entre parenthèses de l'être, en mathématiques, c'est évident. Le nombre, la forme quantitative, géométrique. Donc, mise entre parenthèses, l'époque de l'être. Puisqu'il y a mise entre parenthèses de l'être, je ne suis pas dans l'imagination, je suis dans une pensée mathématique. La pensée mathématique, c'est très difficile à préciser. Il y a des articles très intéressants sur la connaissance mathématique dans la revue Philosophie de sciences philosophiques et théologiques du Père Grat. Parce qu'il a vraiment cherché philosophiquement qu'est-ce que représente l'être mathématique. Qu'est-ce qu'il est? Il y a une abstraction propre aux mathématiques. Et c'est très important pour voir la différence entre Platon et Aristote. Pour Platon, il faut passer par les mathématiques pour arriver à la connaissance philosophique. Pour Aristote, les mathématiques ne sont pas le métaxu pour arriver à la connaissance métaphysique. Je saisis directement la pensée métaphysique à partir du jugement d'existence, sans passer par la connaissance mathématique. Alors vous voyez comment Husserl reprend le point de vue de Platon pour expliquer ce qu'est la phénoménologie. Et c'est très éclairant de cette pensée husserlienne et de penser les inédits de Husserl que Louvain a eu, qui est la valeur. Dieu est la valeur suprême. C'est intéressant de voir comment on aboutit à la valeur suprême. Que la valeur, c'est pas jugement d'existence, c'est l'intelligence qui conçoit l'exemplarité pour l'homme. La valeur est toujours un peu une valeur d'exemple, d'exemplarité. La valeur n'existe pas. Elle existe dans ma pensée. Je la fais, ma valeur. Mais, alors, ce problème est très difficile à bien préciser quand on dit « Peut-on affirmer qu'elle est d'une certaine manière le point de départ de la philosophie de Bergson, la connaissance imaginative ?» Je dis la connaissance mathématique, pas la connaissance philosophique, pas la connaissance imaginative. Mais dans la connaissance mathématique, l'imagination est présente dans le possible, par le possible. Et donc, il faudrait bien regarder. Et c'est un problème critique très, très difficile. Parce que le propre de la connaissance mathématique est très particulier et en même temps très important. Puisque c'est par les mathématiques que les sciences expérimentales deviennent des sciences. Et aujourd'hui, le monde scientifique dépend énormément des connaissances mathématiques. Les mathématiques jouent dans la pensée moderne le rôle que la métaphysique jouait dans la pensée antique. Donc, il est très important de faire cette comparaison et d'essayer de comprendre le lien entre la pensée métaphysique et l'imaginaire. Enfin, pourquoi dites-vous que la vérité formelle est seulement entelekeia quand je connais la réalité, je l'actue. La vérité formelle n'est-elle donc pas energeia? Alors, je crois, c'est vrai, que la vérité formelle qui est dans mon intelligence, dans ma connaissance, on l'appelle formelle, en ce sens que, par l'intelligence, j'explicite la qualité intelligible de la réalité. Et le vrai ontologique, dans la réalité, est moins explicité que par la connaissance. Alors, en métaphysique, et nous sommes en métaphysique, hein, en métaphysique, je dis la vérité formelle, comme elle dépend de la réalité. Mon intelligence est vraie quand elle est conforme à la réalité. Donc, mon vrai formel est relatif à quelque chose de premier. Si mon intelligence est relative à quelque chose de premier, je dois dire que ma vérité formelle dans mon intelligence est ordonnée à la réalité. Donc, elle est relative à la réalité. Elle est donc dépendante de la réalité. C'est donc la réalité qui est vraie, entelekeia, en acte. Au point de vue métaphysique, au point de vue philosophie du vivant, au point de vue du philosophie du vivant, c'est très important. Je dirais, la vérité formelle est la fin de mon intelligence. Donc, elle est entelekeia. Au point de vue de la vie. Et la réalité est actuée, formalisée, mise en lumière grâce à mon intelligence. Donc la réalité, je ne dirais pas qu'elle est relative à mon intelligence, mais du point de vue formel, donc explicitation formelle, la vérité de mon intelligence est entelekeia. Au point de vue de la vie, pas au point de vue de l'être. C'est ça qui est très important à voir. Parce qu'on confond si facilement être et vie. Métaphysique et philosophie du vivant. Chez Hegel, les deux sont confondus. Chez Hamelin, les deux sont confondus. La philosophie du vivant et la métaphysique. Et par le fait même, la vérité formelle est entelekeia. Pour le métaphysicien qui distingue l'être de la vie, ma vérité formelle dépend de la réalité. Et par le fait même qu'elle dépend de la réalité, elle n'est pas fin. Elle n'est donc pas entelekeia, mais energeia. Vous voyez comme les confusions peuvent se faire si facilement. Et ça, le philosophe doit le montrer. En philosophie du vivant, ma vérité formelle que je possède en moi, mon avoir, est ultime. C'est mon bien, c'est ma fin. Alors c'est ma fin, quand je dis c'est ma fin, c'est donc quelque chose qui me permet de m'arrêter. On s'arrête devant une vérité formelle qu'on possède en soi. Mais en réalité profonde, on ne doit pas s'arrêter à sa vérité, mais on doit s'arrêter au réel. Mais combien de personnes s'arrêtent à leur vérité sans regarder le réel? Et c'est toutes les confusions, cela. Ils aiment mieux leur vérité que la vérité du réel. Quand on connaît quelque chose au point de vue métaphysique, on doit toujours dire ceci, c'est ce que j'atteins de la réalité. Je vous dis cela. Mais la réalité est plus que ce que je dis. Et c'est vrai. La réalité est toujours plus riche que ma vérité formelle. Autrement, vous voyez, je dirais que ma connaissance de Dieu est plus parfaite que Dieu. C'est embêtant. La connaissance formelle, la contemplation que j'ai de Dieu, est une certaine connaissance de Dieu. Mais elle est inférieure à Dieu. Elle est dépendante de Dieu. Alors, pour Hegel, la connaissance que j'ai de Dieu est Dieu. Je suis Dieu quand je contemple. Je suis la connaissance, je suis la pensée de la pensée. Oui, on baigne dans cette confusion. On baigne dans cette confusion. Constamment, on croit que la vérité, c'est ce que je pense. Ce que je pense, que je dis être ma vérité, c'est mon avoir. Ce n'est pas ce qui est. L'avoir spirituel que j'ai dans ma connaissance, c'est ma plus grande richesse. Et c'est là où c'est le plus difficile au plan spirituel d'être pauvre. De reconnaître que ce que je connais est relatif au réel. Et donc je devrais tout le temps revenir au réel pour mesurer si ce que je pense est vraiment vrai. Vous voyez ? Et à ce point de vue-là, Étienne Jouisson a parfaitement raison de dire, au fond, il y a deux philosophies. La philosophie qui met l'être avant la pensée, la philosophie qui met la pensée avant l'être. C'est ce que Étienne Jouisson, au terme de ses recherches historiques, arrive à affirmer. Et c'est très juste. C'est très juste. Alors on peut affiner ça en essayant de comprendre comment, en philosophie du vivant, ce que disent ceux qui mettent la pensée avant l'être, c'est la philosophie du vivant qui remplace la métaphysique. C'est toujours intéressant, quand on regarde l'erreur, de voir où cette erreur repose sur une vérité atrophiée, une vérité augmentée. La grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf. C'est vrai, c'est dit parfaitement avec La Fontaine, mais le péché d'orgueil, c'est constamment ça. C'est que notre intelligence veut se gonfler pour arriver à être comme Dieu. Alors, quand elle prétend arriver comme Dieu, elle doit éclater. Hein. Parce qu'évidemment, je ne suis pas Dieu. Et quand je dis je ne suis pas Dieu, je respecte la transcendance de Dieu au point de vue de la réalité, au point de vue de l'être. Il est premier dans l'être. et je suis toujours second dans l'être. Et ce n'est pas commode de considérer qu'on est toujours second dans l'être. Je ne suis jamais premier dans l'être. Mais la vérité que je possède, cette vérité formelle, elle a au point de vue vie, vitalité, quelque chose qui me séduit et qui risque de me séduire de telle façon que j'ai envie de dire que ma vérité formelle passe avant tout. Vous voyez ? Et alors à ce moment-là, je dirais que Dieu, c'est la valeur suprême. Et la valeur suprême, elle m'est donnée par mon intelligence. Et dans mon intelligence, la valeur est toujours réalisée par mon intelligence. C'est pas la fin. Faire de la fin une valeur, c'est mettre mon intelligence avant la réalité. Alors c'est pour ça que on peut affirmer que la vérité formelle est plus que la réalité du côté vital. On doit affirmer que ma vérité formelle est dépendante de la réalité du côté métaphysique. C'est peut-être là, dans cette rencontre de la métaphysique et de la philosophie du vivant, qu'on comprend le mieux l'idéalisme, qu'on comprend le mieux la phénoménologie. Et ceci se fait d'autant plus quand on met les mathématiques avant la métaphysique. Les mathématiques ne peuvent pas me rectifier intellectuellement, parfaitement. Parce que dans les mathématiques, l'être mathématique n'est pas réel, il est possible.